Chapitre 14. L'ombre d'un nuage avance lentement sur le paysage plat, traverse une clôture de fil de fer barbelé, passe sur l'herbe jaunie et monte le mur de 7 mètres de haut. La journée de travail est terminée dans la section T du centre pénitentiaire de Kumla. 15 détenus se bousculent pour avoir une place dans la minuscule salle de musculation au bout du couloir. Les kettlebells, haltères et barres à disques ne sont pas admises, ni aucun autre équipement qui pourrait servir d'arme. Des détenus se poussent lorsque Rainer Kronlid et ses gorilles du gang Brødraskapet, la fraternité, entrent. Rainer tire son pouvoir du fait qu'il contrôle tout arrivage de stupéfiants dans la section et il défend sa position tel un dieu jaloux. Sans le moindre mot de Rainer, un homme maigre descend de son vélo d'appartement et en essuie rapidement la selle et les poignets avec du papier. La lueur statique d'un néon inonde les murs, l'air est lourd d'effluves de sueur et de baume du tigre. Le groupe de vieux toxicomanes se tient, comme d'habitude, de l'autre côté de la cloison en plexiglas, et 2 Albanais de la bande de Malmö sont postés près de la table de ping-pong repliée. La luminosité baisse lorsqu'un nuage passe devant le soleil. Juna Linna termine une série de tractions, lâche la barre fixée au plafond, atterrit en douceur sur le sol et regarde par la fenêtre. La lumière poussiéreuse remplit de nouveau la pièce. Ses pupilles se contractent et ses yeux gris prennent la teinte du plomb fondu pendant quelques secondes. Juna est rasé de près, son front est plissé et sa bouche grave. Il est vêtu d'un t-shirt bleu clair dont les coutures se tendent autour de ses muscles gonflés. « Avant de passer à une prise plus large, tu fais encore une série », lui recommande Marco. Marco est un vieux prisonnier sec et musclé qui assume de sa propre initiative le rôle de garde du corps de Juna. Les tensions sont souvent vives entre les différents groupes de la section et il suit Juna Linna partout où il va dans la centrale, bien qu'en ce moment règne un fragile équilibre. Un nouveau prisonnier, au visage effilé, se dirige vers la salle de musculation. Il cache quelque chose dans sa main collée contre sa cuisse. Il a des pommettes saillantes, des lèvres minces, ses cheveux fins sont coiffés en queue de cheval. Il porte une veste polaire ouverte couleur rouille qui dévoile son cou et sa poitrine tatouée. Pas du tout une tenue de sport. Quelqu'un ouvre la porte et le soudain courant d'air fait glisser une touffe de poussière et de cheveux sur le sol. L'homme maigre passe sous la dernière caméra CCTV accrochée au plafond, entre dans la salle et s'arrête devant Juna. Un des gardiens de l'autre côté de la cloison se déplace, faisant frotter contre le plexiglas la matraque attachée à son ceinturon. Quelques détenus ont tourné le dos à Juna et Marco. L'ambiance dans la salle devient plus tendue. Tout le monde se déplace avec une attention accrue. Un son perçant provenant du système de ventilation au plafond brise le silence. Juna se place de nouveau sous la barre fixe, saute, la saisit et se hisse vers le haut. Marco se tient derrière lui, ses bras nerveux tatoués pendant le long du corps. Ça tire dans les tempes de Juna quand il se tracte encore et encore pour amener son menton au niveau de la barre. « C'est toi le flic ?» lance l'homme au visage étroit. De petits grains de poussière tombent lentement dans l'air immobile. Le garde derrière le plexiglas échange quelques mots avec un détenu avant de retourner vers le poste de contrôle. Juna fait une dernière traction. « Encore 30 !» dit Marco. Le nouveau venu fixe Juna. Des gouttes de sueur brillent sur sa lèvre supérieure, coulent le long des oreilles sur ses joues. « Je vais te planter, salopard !» annonce-t-il avec un sourire stressé. « Nut Pelkaan !» répond Juna tranquillement au milieu d'une traction. « Tu piges ?» ricane l'homme. « Putain, tu piges ce que je te dis ?» Juna a vu que le nouveau cache une arme contre sa cuisse, un couteau improvisé. Un long tesson de verre entouré de scotch argenté. Il va viser bas, se dit Juna. Il va essayer de m'atteindre sous les côtes. Il est presque impossible de poignarder quelqu'un avec du verre, mais si le fragment est consolidé sous le scotch, il peut pénétrer le corps avant de se briser. D'autres détenus se massent devant la cloison de plexiglas, une lueur de curiosité dans le regard. Plein d'une excitation retenue, lentement, comme par hasard, il se place de façon à masquer les caméras. « Tu es flic ?» siffle l'homme, puis il regarde les autres. « Vous savez que c'est un flic ?»« Sans blague !» sourit un des spectateurs avant de boire dans sa bouteille. Un crucifix oscille sur une chaîne autour du cou d'un homme au trait fatigué. Les cicatrices sur ses avant-bras révèlent des veines brûlées par l'acide ascorbique qu'il a utilisé pour dissoudre l'héroïne. « Si je vous le dis, putain !» poursuit le nouveau détenu. « Il est de la Rikskrim, c'est un poulet, un putain de cogne !»« D'accord, ça explique pourquoi tout le monde l'appelle le flic !» ironise l'homme avec la bouteille d'eau, et il rit tout seul. Jonah Lina continue ses tractions. Rainer Kronlid s'est installé sur le vélo. Son visage est fermé et son regard immobile comme celui d'un reptile pendant qu'il suit l'affrontement. Un des hommes de Malmö entre dans la salle et monte sur le tapis de course. Le bruit de ses pieds et le sifflement de la bande roulante remplissent la pièce exiguë. Jonah lâche la barre, atterrit doucement sur les pieds et regarde l'homme armé. « Je peux te donner quelques mots à méditer ?» dit Jonah avec son aimable accent finlandais. « L'ignorance feinte est née de la certitude, la faiblesse illusoire est née de... « Putain, mais qu'est-ce que tu me chantes, là ?» l'interrompt l'homme. Après son service comme parachutiste, Jonah a été recruté au sein du groupe des opérations spéciales. Il a suivi une formation de pointe en combat rapproché non conventionnel et en armes improvisées aux Pays-Bas. Le lieutenant Rinus Advocat l'a entraîné pour des situations comme celle-ci. Jonah sait exactement comment dévier le bras de l'homme et lui briser la gorge et le larynx avec des coups répétés, comment lui arracher le couteau de la main, le lui planter dans le creux de la gorge et en casser le bout. « Plante le flic !» siffle un homme de la Brødraskapet. Puis il rit. « Si tu oses, ta gueule !» l'interrompt un autre, plus jeune. « Vas-y, plante-le !» Le détenu serre son arme et Jonah croise son regard quand il s'approche. S'il est attaqué, Jonah sait qu'il doit s'empêcher d'aller au bout de cet enchaînement de prises qui lui est si naturel. Il doit se contenter d'éloigner le bras, d'arracher le poignard de la main de l'homme et de le faire tomber. Durant ses presque 2 ans en prison, il est parvenu à rester à l'écart des plus grosses bagarres. Son seul objectif a été de purger sa peine pour pouvoir recommencer sa vie. Jonah tourne le dos au nouvel arrivant armé. Tout en échangeant quelques mots avec Marco, il voit le reflet de l'homme dans la fenêtre donnant sur la cour. « J'aurais pu le tuer, le flic !» dit l'homme en respirant rapidement par le nez. « Non, tu n'y serais jamais arrivé !» répond Marco par-dessus l'épaule de Jonah.